Il est l'heure de retrouver Bruno et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien, serait-ce une journée un peu humide? Parce qu'on sent comme un rhume qui pointe.
Il est bien là.
Alors aujourd'hui, on va rencontrer et écouter Aude Mermillot. Aude Mermillot reprend l'écriture autobiographique, mais cette fois pour un récit qu'elle porte en elle avant même de faire sa première bande dessinée. Avec Éclore, elle livre son histoire, son cheminement intime, sexuel, amoureux. D'un abus subi à 14 ans lors d'une première relation amoureuse, inscrit en elle, à sa relation avec Claire qui bouleverse tout. Une écriture de l'intime inhabituelle où la pudeur est invitée. Nous sommes avec Aude Mermillot à 14h15 pour qu'elle nous accompagne dans son récit intime. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'avoir un ton plein de soleil dans ce jour pluvieux. Alors, une brève tout d'abord. Une brève importante parce qu'il s'agit d'un projet d'acquisition par la Bibliothèque nationale de France, la BNF, de l'ensemble des planches originales de La Bête est morte. Alors, les planches originales, on en a parlé la dernière fois à l'occasion de la vente de Maurice, la prochaine vente de Maurice, le créateur de Lucky Luke. Mais cette fois, ce sont les planches donc de La Bête est morte, qui est un livre tout à fait emblématique de Calvo, qui est un dessinateur de la première moitié du XXe siècle et qui, au moment de la guerre et après aussi, il faut pas l'oublier, et qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a fait paraître La Bête est morte, qui était une vision de ce conflit à travers les animaux et la puissance hitlérienne était représentée par le loup. Et dans la première édition, le loup avait une truffe fendue. Donc il y a pour la BNF l'enjeu non seulement de rappeler son attachement à la bande dessinée, mais de pouvoir acquérir ce qui constitue vraiment un patrimoine de la bande dessinée en France, de la littérature dessinée, de la littérature tout court, de la création d'une manière générale, que constitue l'ensemble des pages de La Bête est morte. Alors, sur le site de la BNF, il y a une présentation très complète de La Bête est morte, de ce que représentent ses originaux, de ce que ça coûte. C'est vraiment une somme importante, d'où cet appel à participation pour cette cause, oui, nationale, parce que voir s'éparpiller ces planches originales serait vraiment une catastrophe. L'État français a par le passé fait quelques bourdes et donc on a vu des patrimoines ainsi complètement sortir du territoire français ou être complètement dispersés. Donc là, il y a ce projet des acquisitions des planches de La Bête est morte de Calvo. Et allez sur le site de la BNF, vous aurez toutes les précisions et vous verrez c'est la qualité de ces planches, puisque c'est vraiment une œuvre un peu à part dans l'œuvre en bande dessinée de Calvo. Virgule. Alors, dans le livre de Aude Mermillot, Éclore, le dessin y est central, comme dans beaucoup de bandes dessinées, mais là, il y a vraiment un projet narratif qui donne toute sa place au dessin. Et je vais donc encadrer ce livre par d'autres livres où le projet narratif s'appuie sur le dessin avec des exigences tout à fait particulières. Et on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine avec des essais sur la bande dessinée et le dessin qui sont aussi déterminants pour comprendre cet attachement à cette puissance du dessin. Premier livre, Ava, 48 heures dans la vie d'Ava Gardner. C'est une biographie donc avec une approche particulière, vous l'avez entendu dans le sous-titre, de Ana Mirales pour la partie dessin et d'Emilio Ruiz pour la partie scénario. Alors, Ava Mirales est une dessinatrice espagnole qui a un talent mais incroyable, qui transparaît dans beaucoup de ses pages pour dessiner les corps, et notamment les corps des femmes. On l'a vu à l'œuvre dans Jean, dans Eva Medusa. Elle a dessiné le désir dans un récit qui était également scénarisé par Emilio Ruiz, qui était corps à corps, où il y avait vraiment cette opposition entre la volonté masculine et l'indépendance et le respect du consentement chez l'héroïne qui était une actrice de cinéma. Avec 48 heures dans la vie d'Ava Gardner, avec Ava, on retrouve cette complicité qui existe entre les deux auteurs et qui réussit à faire donc de Ava cette actrice, cette femme profondément humaine, les rayonnantes. Alors le récit. Ava Gardner. Et tout est dit. D'une beauté renversante, l'actrice brille sous la lumière des projecteurs pendant 40 ans. Le temps de 70 films. La gamine pauvre qui marchait pieds nus dans les champs de coton de Caroline du Nord devient par la magie du cinéma l'archétype de la femme fatale. Adulée dans le monde entier, admirée et courtisée par les grands noms du 7e art, elle est à l'apogée de sa carrière en 1954 dans La Comtesse aux pieds nus. Étrange parodie de sa propre vie. La tournée promotionnelle en Amérique du Sud est triomphale, jusqu'à Rio. Là, dès l'arrivée à l'aéroport, le séjour tourne au drame, elle quittera le Brésil précipitamment, malmenée et humiliée. C'est déjà la grande force du récit d'avoir centré cette biographie sur 48 heures. Et à travers ces 48 heures, à travers ce moment très fort, très, très intense, montrer l'ampleur, la dimension, les qualités d'Ava Gardner bien au-delà de sa beauté. Déjà, en soi, s'attaquer à un personnage comme Ava Gardner, en faire un personnage dessiné, ça manque pas d'audace. Et eh bien, le résultat est là. Ana Mirales fait de son Ava Gardner une femme absolument rayonnante. Elle est là, au milieu de ses pages, présente dans chaque case, rayonnante, avec cette ressemblance, avec cette justesse constante dans les attitudes, dans les sourires, dans toutes les nuances que peuvent avoir les différentes expressions du visage d'Ava Gardner tout au long de ce récit. Donc déjà, on a, au niveau de la lecture, cette empathie immédiate pour ce personnage qui va être présente pleinement à travers ces 48 heures tout au long de cette biographie. Dans ces 48 heures, il y a vraiment ce projet de nous faire comprendre qui est Ava. Il y a une obligation, pratiquement, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin, c'est qu'il faut qu'on croie à ce Brésil de 1954, qu'on croie aux différentes scènes, et ça démarre tout de suite avec une arrivée Au Brésil, alors on découvre Ava Gardner qu'à la page 4, il y a toute une première partie où on est du point de vue d'un des protagonistes qui attend Ava, qui doit aller l'accueillir à l'aéroport. Et puis là, on la retrouve dans l'avion et elle est déjà interviewée par un journaliste. Et là, elle débarque à Rio et on est dans cette foule qui va accueillir Ava, mais c'est une foule de journalistes qui la presse, qui l'oppresse, et il y a vraiment une chaîne narrative qui va être constituée par cette présence des journalistes qui se font même menaçants, et il y a dans la qualité du dessin une précision dans ces mouvements de foule sur des cases qui gardent la même hauteur d'image et qui fait qu'on est vraiment au plus près de ce récit. Cette présence des journalistes va être constante tout au long de ce récit. Emilio Ruiz va vraiment montrer le côté très nocif de leur présence à ce moment-là avec Ava Gardner, pour lequel ils n'ont aucun respect, qui va être... Elle va être malmenée par cette presse people et tout au long de ce récit, ils vont apparaître de différentes façons, que ce soit en foule pour l'attendre dans certains lieux publics ou au contraire au moment d'une conférence de presse où elle va déjà avoir cette pression et cette façon dont beaucoup de journalistes vont trahir des événements, vont les truquer, vont tricher avec la réalité et faire que le séjour à Rio d'Ava Gardner va devenir un véritable calvaire. Il y a dans le dessin d'Anna Mirales cette capacité à être très près, très réaliste. La ville, l'urbanisme, les voitures de 1954, sortes de belles américaines qui vont être présentes et faire que lorsqu'on rentre dans un nightclub où Ava Gardner va chanter, lorsqu'on va être dans la ville, lorsqu'on sera dans les intérieurs des différents hôtels, à chaque fois, nous y sommes, nous y croyons, et c'est une des très grandes forces de cette bande dessinée, c'est de nous emmener dans ce Rio de 1954 avec Ava Gardner, comment c'est devenu un véritable cauchemar et elle va quitter le Brésil précipitamment et presque renoncer à une carrière cinématographique et faire autre chose. C'est un livre remarquable, il y a pas de problème là-dessus. Et on est donc 48 heures dans la vie d'Ava Gardner, de Emilio Ruiz et Anna Mirales. C'est publié par les éditions d'Argo. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 22,50 €. Alors, poursuivons avec un autre livre important qui est tout à fait en lien avec le livre Éclore de Aude Mermillio, c'est celui de Solène Robière. C'est le premier livre de Solène Robière et elle présente, publie Pizzica, Pizzica. Alors c'est un premier livre tout à fait important puisque c'est le récit d'une jeune chorégraphe, Apolline. Elle est en Bretagne où elle accompagne une troupe de théâtre et elle rencontre Erwan, un jeune homme beau comme Roméo. Quand celui-ci lui propose une sortie en voilier, elle accepte. Aux grandes dames de ses proches. Mais tu connais à peine. La sortie en voilier est une épreuve. Tempête, mer déchaînée, nausée qui tordent Apolline de douleur et de peur. Quand le calme revient, Apolline est exténuée, mais Erwan insiste pour faire l'amour. Elle cède, subjuguée. C'est le début d'un voyage intense et paradoxal qui les conduira à Naples, puis dans les Pouilles en Italie. Peu à peu, Apolline se sent de plus en plus entraînée dans une ronde amoureuse et charnelle, qu'au fond, elle n'a peut-être jamais maîtrisée. Une ronde qui s'achèvera dans la transe explosive de la pizzica. Alors la pizzica est une tarentelle, originaire des Pouilles en Italie, liée dans le passé aux pratiques thérapeutiques du tarentisme pour soigner les morsures de la tarentule. Elle est aujourd'hui une danse populaire avec un rituel très précis. Le premier livre de Solène Robière révèle donc une autrice d'une grande maturité. Et la simple expression de la danse, qui ouvre d'ailleurs le récit, en est déjà une grande qualité de maturité. Alors, c'est un récit sur l'émancipation, sur l'affirmation, sur une volonté de comprendre comment, sous des airs très, très paternalistes, très amoureux, très tendres, Erwan peut devenir quelqu'un finalement toxique qui se comporte avec Apolline comme il se comporte sur son bateau en capitaine de navire. Donc tout l'enjeu à travers ce récit, qui est un récit d'ampleur, il fait 192 pages, est de montrer le lent cheminement d'Apolline pour comprendre que dans cette tendresse très enveloppante de Derwan pour elle, eh bien il y a une violence qu'elle va avoir du mal à réfuter. Et c'est l'enjeu de ce livre, de montrer toute l'intensité, toute l'énergie nécessaire pour cette émancipation. Il y a plusieurs moments très forts dans le livre qui montrent comment, sous des passages qui paraissent plutôt anodins, il y a vraiment cette présence d'une sorte de domination que l'on accepte avec plus ou moins de plaisir, mais qui fait que vous êtes dans cette position de domination. Il y a la présence du cercle familial, celui d'Apolline. Il y a donc une histoire de la relation amoureuse de ses parents séparés qui va aussi apparaître et montrer l'importance de cet héritage, de cette histoire familiale. Le dessin de Sophie Robière est un dessin réaliste lui aussi, mais avec un trait qui va être proche des corps, proche des expressions, avec beaucoup de plans assez larges, peu de très gros plans, mais une façon ainsi de montrer l'espace dans lequel va évoluer le couple, dans la situation dans laquelle Apolline se trouve, comment elle va être marquée par ses moments de vie avec Erwan tout au long de leur voyage en bateau, puis à Naples, qui va être le déclencheur de tout. Il y a une scène finale avec la pizzica qui est dessinée et qui montre cette difficulté, cette question de dessin. Comment fait-on pour dessiner la danse ? La scène d'ouverture est pleinement convaincante, elle est d'une intensité rare. Sur la scène finale, il y a une façon de fractionner les images qui n'est pas du tout à l'œuvre sur tout le reste du récit, qui ne rend pas pleinement compte de cette intensité de la danse. Mais ce n'est qu'un infime détail, tant le personnage d'Apolline est convaincant. Pizzica, Pizzica de Sophie Robière, donc son premier livre. Il est publié par les éditions Futuropolis et les 192 pages de ce récit sont au prix de 26 euros. Alors la programmation musicale a été faite par Aude Mermilliot et on écoute son premier morceau. Comment s'épanouir dans sa sexualité dans une société qui donne aux hommes l'autorisation de faire du mal? Dans Éclore, Aude Mermilliot répond entre autres à cette question. Ce récit autobiographique qu'elle porte en elle, bien avant de faire sa première bande dessinée, le mouvement MeToo lui donne l'autorisation de raconter son histoire. De la douleur profonde d'une première expérience à 14 ans, inscrite en elle, des errances nombreuses pour être cette femme soi-disant libre qui fait beaucoup l'amour. Avec Jacques, elle pratique l'échangisme, les relations homosexuelles ou à plusieurs. Son cheminement la mène vers la considération de son désir à elle, pour l'espace et par l'espace de parole de la psychothérapie avec Thalie. Et puis, il y a Claire et tous les possibles. Une relation où la future absence de l'homme aimé n'est pas présente. Aude Mermilliot se donne le recul nécessaire pour que son histoire parle à d'autres. Dans une mise en scène au cordeau où chaque mot semble choisi, où le trait est constamment habité par la pudeur, l'autrice du Cœur des femmes affirme l'ampleur de son écriture dessinée. Un récit où l'intime a une place unique. Nous sommes avec Aude Mermilliot en direct pour discuter de Éclore. Bonjour Aude Mermilliot.
Bonjour.
Alors, il y a eu le Cœur des femmes où il y a déjà présent cette attention à l'intime et comment la médecine traitait de cette intimité des femmes. Et là, il y a une dimension beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce qui a vraiment permis, qui vous a autorisé à écrire Éclore ?
Déjà, c'est le temps. C'est-à-dire, j'ai attendu d'être suffisamment expérimentée dans la maîtrise de la bande dessinée, de l'outil narratif, avant de m'atteler à ce récit-là. Je voulais pas me planter. Et ensuite, c'est que ça fait 15 ans que j'écoute et que je lis des pensées féministes. Donc j'étais nourrie moi aussi de toutes les réflexions, enfin toute la constellation de penseuses qui vient avant moi et en même temps que moi, mes contemporaines aussi. Donc tout ça, ça donne des autorisations. J'étais dans une époque qui était très propice.
Alors, à la lecture d'Éclore, on est vraiment au plus près de votre histoire. Comment s'est fait cette écriture ? Comment avez-vous cadré, si on peut dire, ou resserré constamment ce récit, justement avec l'ensemble des propos qu'on pouvait entendre aujourd'hui, qu'on peut entendre aujourd'hui.
En fait, l'enjeu, ça a été de ne pas en faire un journal intime, d'en faire un livre avec une portée universelle. Donc, il y a eu une première phase de travail, d'abord d'écriture, des souvenirs, et ensuite un peu d'élagage, de savoir qu'est-ce qui relevait de l'anecdotique ou qu'est-ce qui avait du sens. Donc il y a dû, enfin voilà, donc j'ai enlevé pas mal de strates d'écriture aussi. Et ensuite, c'était un livre où il fallait un peu accepter son imperfection, parce que le monde évoluant et les pensées évoluant très vite ces temps-ci sur ces questions-là, je sais que si je le relis dans 5 ans, je vais avoir compris encore des nouvelles choses que j'aurais pu mettre dedans, mais que je n'ai pas mis. Donc il fallait aussi savoir s'arrêter et y mettre un terme. Mon axe de travail principal, c'était que ça reste un livre qui soit délicat pour les lectrices et lecteurs. Donc je choisissais justement de cadrer et le propos et les images de façon à ce que le propos soit accessible et ne soit pas heurtant. Voilà.
Aude Mermilliot, comment s'est écrit cette scène de l'abus ? Il y a vous utilisez un procédé très inhabituel qui est une sorte de première expression, et puis la scène va être reprise dans son intégralité. Comment s'est fait l'écriture de cette scène ?
Je suis assez contente de moi pour le coup.
Vous pouvez, il n'y a pas de problème.
ce que j'ai voulu faire, c'était emmener les lectrices et lecteurs dans la même confusion qui avait été la mienne, à savoir un abus qui se passe dans ce qu'on appelle communément la zone grise. Donc je me fais pas taper dessus, c'est moi qui suis rentrée de mon plein gré dans cette chambre. Donc on repart avec une sensation de malaise, mais qui porte relativement peu de mots. On ne sait pas trop. Enfin voilà, je suis repartie avec cette confusion-là et je voulais emmener les lectrices au même endroit. Donc elle-même n'est pas les clés de lecture d'abord, et que ensuite je laisse la liberté. Enfin, je suis extrêmement factuelle sur cette scène parce que je voulais l'être, parce que je voulais justement pouvoir moi cesser de me poser la question de savoir si c'était grave ce qui s'était passé ou pas. Donc une bonne fois pour toutes, écrire de façon très exigeante tout ce qui avait pu se produire, et ensuite je laisse en fait la liberté aux lectrices et lecteurs de savoir ce que eux ils en pensent. Donc voilà, je voulais faire ça, et du coup l'intérêt de le re-raconter plusieurs fois, c'était aussi d'ajouter ces strates de compréhension qui se font dans le temps, quoi. Jusqu'à une dernière fois où on revoit cette scène dans le cadre d'une séance d'hypnose, où là par contre on s'en libère, quoi.
Alors, vous avez parlé d'hypnose, Aude Mermilliot, vous faites intervenir la psychothérapie. Il y a ce personnage de papier, Tali, qui offre un espace de parole et qui va donc cheminer, qui va être aussi une des chaînes narratives. Et cette dernière séance, représentation, il y a la colère. Vous pouvez exprimer une sorte de colère par rapport à cette première scène. Quelle question vous vous êtes posée au moment de parler de psychothérapie dans une bande dessinée et dans ce récit intime ?
Y a un truc formel, à savoir qu'une thérapie, c'est juste une conversation dans un huis clos. Donc, ça peut être assez ennuyeux à dessiner. Et à lire d'ailleurs. Donc il y avait quelque chose où je me sers d'onirisme, je me sers. Bon, l'avantage de la BD, c'est qu'on a tous les effets spéciaux gratuits. Il y a une séance qui se passe chez moi où elle apparaît un peu telle une fée en claquant des doigts. Il y a une fois où on est toutes les deux dans un bateau et on rame, parce que voilà, c'est une petite métaphore du fait que je rame moi-même dans ma vie. Donc j'ai essayé de placer ces conversations à des endroits et à des moments qui les rendent quand même vivants et assez ludiques. Mais après, je me suis pas posé de questions sur le bien fondé, en tout cas, de raconter cette thérapie, parce que ça, effectivement, était vraiment l'un des outils majeurs de ma vie pour avancer. Je pense que je m'en serais sortie sans la thérapie, mais sans doute avec un peu plus de difficultés et plus de temps, quoi.
Alors, Aude Mermillot, à un moment, vous avez déjà pas mal cheminé, on a avancé, le lecteur et la lectrice ont avancé dans le livre, et vous dites « j'ai toujours 15 ans et demi ». C'est difficile. Comment, parce que c'est une phrase importante, en fait. Ça montre cette difficulté à aboutir, à advenir, finalement.
En fait, pour moi, c'est que les choses cohabitent. Durant tout le début du livre, les deux premiers chapitres notamment, on sent que cette partie de moi qui est coincée dans cette chambre, elle m'encombre et elle m'empêche. Elle est vraiment encore vive. Alors que maintenant, je peux encore dire que elle est encore là, mais par contre, elle fait partie d'une vastitude d'autres parties de moi qui cohabitent ensemble, et du coup cette partie-là ne m'empêche plus grand chose. On voit bien le système traumatique que parfois il y a des réminiscences, mais c'est de plus en plus éloigné et c'est de moins en moins brutal. Donc après, je suis pas à l'abri qu'un jour, parce qu'il m'arrivera quelque chose, je ne sais quoi, ça puisse à nouveau être empêchant. Mais là, pour le moment, ça l'est plus. Mais par contre, oui, elle est toujours là. Mais tout comme la petite fille de 7 ans est toujours avec moi aussi, quoi.
Alors, il y a beaucoup de livres, et j'en ai présenté un au début de cette nouvelle saison d'écriture dessinée sur les masculinités, sur comment déconstruire les masculinités. Il y a dans votre livre Éclore un soutien, une piste pour justement déconstruire ces masculinités en montrant la position des hommes et ce pack que vous appelez la totale, la relation stable, l'amour stable et le projet commun qui semble très, très loin. Comment vous situez-vous par rapport à cette ouverture vers cette déconstruction des masculinités ?
Je suis pas hyper bien placée pour en parler, parce que du coup, moi, je suis en couple avec une femme maintenant. Donc, du coup,
ça n'empêche pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le vis plus directement. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans l'hétérosexualité actuellement, on continue de ne pas être seul dans la chambre. On est quand même avec toute la société qui nous a construites. Et du coup, il y a un travail de déconstruction d'ailleurs des deux côtés, hein, plus du côté des hommes, ok, mais du côté des femmes aussi, notamment sur ce fantasme du prince charmant. Et ce que moi je découvre en étant avec une femme, ça a été que toute ma construction est érotique et amoureuse, elle est basée quand même sur une image de la domination, pas forcément dans un cadre intime, mais dans le fait que je suis plus petite, on me prend dans ses bras parce que je suis moi puissant et je vais te protéger, et il m'a pas répondu à mon texto, et est-ce que tout ce truc là disparaît quand je commence à être en couple avec une femme. Et ça, moi, le moment où j'ai choisi de rester avec ma compagne en dépit du fait que je suis tombée amoureuse d'elle, il y avait un choix de me dire: je crois que moi, là, je vais pas m'en sortir de ces injonctions là en fait, ça me demande trop de temps. Je constate que je suis vraiment un très bon sujet de la jeune femme qui tombe que amoureuse d'hommes inaccessibles et qui la balade un peu, même s'ils sont chouettes. J'ai l'impression que ça demande un travail colossal que moi, j'avais plus envie de faire. Et j'admire les gens qui le font. Je trouve ça très bien.
Alors, il y a une question qui justement, avec cette relation avec Claire, c'est comment aborder le bonheur ? Alors, comment aborder le bonheur, Aude Mermillon?
Moi, justement, au début, je l'aborde mal. Hein. Je l'aborde, ça me demande beaucoup de travail de l'aborder parce que je suis pas habituée, en fait. Et d'ailleurs, c'est une des séances de thérapie qui m'a été la plus utile avec Cali. C'est que je suis, ça fait quelques mois déjà qu'on se fréquente avec Claire et je vois que je n'arrive pas à m'engager avec elle et je ne me comprends pas moi-même de pourquoi alors qu'elle me propose tout ce dont je rêve, j'arrive pas à y aller. Et en fait, c'est Tali qui m'ouvre les yeux là-dessus. Donc, en gros, je n'ai pas du tout été habituée à être heureuse. J'ai été habituée à courir, à espérer, à voilà, et que là, de la présence, de la fiabilité, un projet commun, ben en fait quelque part c'est trop, je sais pas du tout comment m'y prendre, et donc c'est un peu par petites touches et avec indulgence pour le fait qu'on n'est pas habitué, que quand ça arrive, faut pas s'attendre nécessairement à ce que ce soit hyper facile à accueillir non plus quoi. Voilà, donc moi ça a été un travail qui a pris une petite année quand même à apprendre à être heureuse.
Aude Mermillon, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes pour parler un peu plus dessin et mise en scène. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Aude Mermillon à l'occasion de la parution de son livre Éclore. Alors, Aude Mermillon, vous êtes présente dans tout le livre, c'est un récit autobiographique. Vous êtes là, presque dans chaque case. Quelles sont vos questions de dessin au moment d'aborder cette mise en image ?
Alors moi je garde vraiment comme boussole la pudeur parce que je veux être indulgente avec moi-même, j'ai envie que mon image, même si on n'est pas dans de la photo, hein, donc il y a une distance, un personnage, j'ai quand même envie de pouvoir feuilleter ce livre en étant moi à l'aise. Donc j'essaye de cadrer de façon assez pudique. Et aussi, comme on parle notamment d'abus sur le début du livre, je veux absolument qu'on y voit de l'abus et pas de la sexualité. Donc ça implique d'être très collé à elle et de pas faire de plans larges, parce que des plans larges, si on feuillette et qu'on lit pas le texte, on va voir de la sexualité et même peut-être éventuellement de la pornographie. Et ça, voilà, ça c'était vraiment mon souhait, était que ça reste toujours avec le propos et que l'image soutiennent voilà, cette pudeur-là et cette introspection, quoi.
Alors, Aude Mermillot, vous avez évoqué la photographie et justement le dessin, le trait. Est-ce qu'il permet donc de cette mise à distance, cette mise en perspective suffisante pour ce cheminement intime que vous racontez?
Alors oui, il y a quand même une voix off qui est vraiment très présente. Le dessin seul ne se suffit pas. J'ai essayé d'avoir un rythme où j'ai quand même utilisé pas mal de scènes dialoguées, qu'on ne soit pas que dans ma tête en permanence, mais il y a tout de même des temps d'introspection et de questionnement, et surtout il y avait quand même des choses où j'avais pas forcément envie que ce soit ouvert à l'interprétation, mais j'avais envie de donner mon avis, et où là il y a quand même beaucoup de texte dans cette bande dessinée-là.
Et d'un autre côté, il y a un mouvement sur les textes. Il y a donc toute la partie du début où il n'y a pas encore cette prise de conscience. Et puis, il y a justement toute la partie introspection pour comprendre qui vous êtes. Et puis, à la fin, donc dans cette deuxième partie, il y a beaucoup plus de cases. Et c'est au moment où Claire arrive, finalement, les dialogues redeviennent beaucoup moins importants, comme si vous étiez apaisé. C'est aussi une volonté de votre part d'avoir rythmé ainsi la parole en relation avec le dessin.
Alors là, c'est pas vraiment des choix que j'ai faits. C'est qu'effectivement, le bonheur implique moins de questionnements, implique moins de bagarre aussi un peu dans les conversations, et comme plus ça va, plus ça s'installe dans quelque chose d'apaisé et d'enraciné, ça commence à se passer de mots de plus en plus, quoi.
À un moment, vous évoquez cette notion de réparer le passé. Est-ce que c'est fait, Aude Mermillot?
Oui, je pense. En tout cas, moi, je me sens plus empêchée par tout ça. Je sens que ça fait vraiment partie de ma vie au même titre que plein d'autres événements. Et je pense que un des outils aussi qui m'a permis de peaufiner ces réparations, c'est de m'autoriser à être en colère aussi, de sortir uniquement de la position du pardon, de la compréhension, mais de m'autoriser aussi à cesser d'être dans une posture un peu de pédagogue, mais de m'autoriser à être aussi moi en colère. Et passer par la colère a finalement aidé à arriver à de l'apaisement, paradoxalement.
Alors, vous avez évoqué que c'est un livre, vous souhaitiez qu'il serve à d'autres. Est-ce que vous avez eu des premiers retours? Est-ce que vous avez été confirmé dans cette réussite-là?
Oui, tout à fait. J'en ai eu moins que pour Il fallait que je vous le dise, parce que c'était un livre sur l'avortement, et en fait, il n'y en avait pas avant le mien, quasiment. Donc là, il y avait eu vraiment énormément de témoignages, de confidences qui avaient eu visiblement besoin d'être dites. Là, j'en ai moins parce que c'est un livre qui s'inscrit quand même dans une époque où il y a beaucoup de témoignages. Donc le mien s'ajoute à plein d'autres déjà existants. Mais j'ai quand même beaucoup de messages privés qui me disent un peu ce qu'on me disait aussi pour le fait que je vous le dise. C'était vous avez dit quelque chose de moi grâce à votre livre. Et ça, ça veut dire que le pari est gagné, quoi.
Alors, vous avez porté ce récit pendant très longtemps. Qu'est-ce qui, une fois fait, il va vous permettre d'écrire, de dessiner, de faire?
En fait, il me permet un peu de clôturer une période. Pas dans mon engagement militant féministe, ça s'arrête pas, mais autour de ce qui touche à la sexualité, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être dit, qui là a été dit. Et maintenant, il me permet d'aller en fait explorer d'autres choses, surtout. Ça m'offre de la liberté pour avoir du temps pour d'autres sujets, quoi.
Merci beaucoup, Audemer Milliot. Donc, je vais rappeler les caractéristiques de votre livre « Éclore », donc, qui est publié par les éditions Casterman. Les 264 pages de ce livre sont au prix de 27 euros. Donc, vous avez fait l'écriture, le dessin et les couleurs. Et le lettrage et la typographie, c'est Philippe Dabas. Je me trompe pas ?
Non, c'est ça.
Parfait.
Et bah, merci beaucoup pour votre invitation. Et voilà. Et tout à l'heure, on a écouté une chanteuse, Camélia Joubran, palestinienne, que j'encourage tout le monde à aller découvrir parce que c'est très beau ce qu'elle fait. Voilà.
Et puis, on va finir avec un titre que vous citez dans votre livre, c'est Les Souveraines,
oui.
Souveraines de
oui.
Clérisé. Très bonne continuation. À très bientôt.
Et au bien, revoir. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Toi tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Toi tu as décidé que pour être libre tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Je voudrais terminer cette émission avec Alessia, signée Zidrou Merveille. La couverture est accrocheuse parce qu'il y a déjà une mise en couleur inhabituelle, avec notamment une mer d'un rouge intense, un ciel d'un rose inhabituel, et puis un personnage présent au premier plan, avec une silhouette tout à fait inhabituelle, puisqu'il a un nez en forme de bras de cactus. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de Richard Gordon Cactus qui va être racontée comme une biographie. Et ce Signor Cactus, eh bien, il est vert comme un cactus, il a un nez en forme de cactus avec quelques petites épines dessus. Et il va revenir dans un lieu important de sa vie. Alors avant d'aller plus en détail, le récit. Le bonheur est un don, Ricardo, un don. Alors il faut croire que je les ai tous, sauf celui-là. Au prétexte d'une exposition prochaine, le célèbre peintre Hergé Cactus revient sur les rives de ses amours napolitaines perdues, Alessia et Marchesa. Il cherche aussi dans les ruelles de Capri et sur les plages de la côte amalfitaine un remède à cette maladie qui le ronge, la mélancolie. Alors il y est question d'une histoire d'amour passé et avec ce décalage qui est omniprésent tout au long de cette histoire, le héros est un cactus. C'est un homme cactus, mais vert, mais ça va être pratiquement le seul vert de cette couleur qui va irradier les images de ce livre. Alors, il y a un récit qui est à la fois inhabituel, qui reprend ces décalages très subtils que l'on peut trouver en littérature, par exemple chez Éric Chevillard avec son très beau récit Au plafond, où il raconte l'histoire d'un homme qui a une chaise sur la tête et qui va vivre le même quotidien que nous, mais il a une chaise sur la tête. Et ça semble complètement naturel. Et là, c'est la même situation. À aucun moment, on interpelle Hergé Cactus sur sa forme de cactus. Et Zidrou va raconter cette histoire vraiment comme une biographie. Il y a, en fin de livre, un extrait de catalogue d'une exposition que Cactus va préparer, et notamment à différents moments de ce récit. Et on aurait presque envie de regarder sur Internet si le cactus en question existe. Bon, il a une forme de cactus, donc on se dit bien que non. Mais par contre, par exemple, à plusieurs moments, le couple, puisqu'ils retrouvent Marchesa, ils vont citer Liam Connor Sterrett, qui est poète. Ils vont mentionner quelques-uns de ses écrits. On va avoir des citations, mais vous pouvez chercher. Le poète en question n'existe pas. Et donc, c'est vraiment un simulacre qui est à l'œuvre, et c'est en littérature des très grands moments. Par exemple, François Rivière, dans Julius Exhumé, a écrit la biographie d'une écrivaine anglo-saxonne, et on y croit tellement qu'on se précipite sur les outils pour avoir des encyclopédies Internet pour essayer de trouver quelle est sa bibliographie. On ne trouve rien. Et il y a, ça c'est la grande dimension de ce récit, cette façon d'évoquer ces retrouvailles entre Marchesa et Cactus. Puisque Marchesa, on la sent encore très amoureuse, et là, il y a entre eux des gestes, des moments de tendresse, mais c'est assez furtif, ce sont des invitations. Cactus les décline parce que ce n'est plus le moment, et ça va donner à Zidrou l'occasion d'une qualité de dialogue assez étonnante, parce qu'on est vraiment dans cette écriture qui porte une intensité, une profondeur, qui va évoquer cette relation, comme si chaque propos était nourri par l'histoire du couple lui-même. Il va y avoir des situations équivalentes avec ces intermèdes où Cactus va rencontrer un jeune homme, Dino, dit Cartolino, parce qu'il vend des cartes postales. Et là aussi, il y a des qualités de dialogue qui créent une relation précise, particulière, où il y a de la considération, du respect, et ça marche parfaitement. Carte postale, Il y a dans le travail de David Merveille une qualité qui est de représenter presque comme des cartes postales les situations de la ville avec Cactus qui va y déambuler. Mais on sent que c'est pas du tout le propos. On évacue ainsi ces visions d'ensemble qui fonctionnent très bien, qui apportent leurs informations. David Merveille est beaucoup plus attaché aux relations de proximité, à cette façon dont le couple va se regarder, se rapprocher, avoir des effleurements de mains. Et là, David Merveille, à la fois dans ses cadrages, dans l'espace de la case, dans la qualité de la mise en couleur, il touche juste à chaque fois. La mise en couleur, elle est à l'image de la couverture. Elle est complètement inhabituelle. On sort constamment de ces stéréotypes, de ces clichés, de la mer bien bleue et du ciel qu'il est tout autant. Là, rien de tout ça. Chacune des cases va montrer une lumière particulière qui s'attache à créer des atmosphères, à nourrir ces atmosphères d'une intensité particulière qui n'est pas celle que l'on a l'habitude de lire dans une bande dessinée ou dans un récit. Et donc, on est constamment en dehors des attendus possibles de notre culture de la bande dessinée qui ferait que à telle situation peut correspondre tel ou tel développement. Là, ce n'est pas le cas, aussi bien pour chacun des composantes de ce récit, donc la narration elle-même, la mise en scène, le dessin, le cadrage, la mise en couleur, le lettrage aussi a une attention tout à fait particulière. Reste que ces 96 pages qui est une ampleur nécessaire pour ce genre de récit, eh bien nous emmènent dans un endroit où on n'est jamais allé, parce que Richard Gordon Cactus, avant, on ne l'imaginait pas, et là, c'est tout à fait possible. Et puis, Liam Connor Starrett, je crois qu'on aurait bien envie de le lire, mais c'est impossible. C'est une très grande réussite de David Merveille et de Zidrou, qui avaient déjà signé Mi Amore, un recueil de nouvelles sur la relation amoureuse, et là aussi, un récit d'ampleur, mais remarquable. Les 96 pages de ce récit, donc de Zidrou pour le scénario, de David Merveille pour le dessin, sont au prix de 19,50 €. C'est publié par les éditions Delcourt. Il y a une collection, c'est dans la collection Mirage. Et la semaine prochaine, nous serons avec Anne Gorouben pour son livre « Une jeunesse si secrète », qui est un très beau titre, et vous verrez, il n'y aura pas seulement le titre. Merci Fabien pour cette technique. Très bonne semaine sur les ondes de Radio Escapade, et on se retrouve jeudi. À bientôt.
Écriture dessinée.